utiliser au moment de prix. Je vais mettre ça. Je tiens aussi.
Donc, rebonsoir à tous. Je ne sais pas si on peut parler de message proprement parlé. Ça va être plutôt une méditation sur un aspect particulier de l'œuvre de la croix. Quand Abdel m'a invité à préparer trois messages, alors immédiatement j'ai pensé trois, Père, Fils, Esprit, et ça m'a paru assez naturel que de assez rapidement de penser au silence du Père dans l'œuvre de la croix. On va voir exactement à quel moment ce silence s'est mis en place. Et ensuite, demain soir, ça sera la proclamation ou les, il y en a deux, proclamations de Jésus entre le moment où il meurt et le moment où il ressuscite. Donc en fait, il s'est passé des choses. Et le troisième message va concerner la puissance de l'Esprit de vie. Donc la puissance de l'Esprit dans la résurrection. Mais vous allez voir que je vais l'aborder également d'une manière un peu particulière. Donc pour ce soir, désolé pour la voix. Donc pour ce soir, le silence du Père dans l'œuvre de la croix. Et en guise d'introduction, j'aimerais que l'on se rappelle combien la relation entre Jésus et son Père est au centre, est au cœur de toute la vie de foi de Jésus. C'est son moteur. Tout est déterminé dans la vie de Jésus par sa relation au Père. C'est une relation d'adoration. Jésus dit « Mon Dieu ». Après sa résurrection, il va dire « Votre Père est mon Père, votre Dieu est mon Dieu ». Donc, il qualifie le Père de « mon Dieu ». Donc, adoration, j'allais dire, dans les deux sens du terme, d'ailleurs, le sens religieux, l'adoration, mais également, il adore son Père, il aime son Père. Également, une relation qui inclut la soumission, l'amour, l'intimité dans le sein du Père. Il y a un vocabulaire, en particulier dans l'évangile de Jean, qui est très intimiste. Et la pensée qui m'est venue rapidement, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'il en est devenu de cette relation à la croix? Et donc la question sur laquelle je reviendrai à la fin, et qui est vraiment pour moi une interrogation depuis plusieurs semaines maintenant, donc bien avant l'invitation à parler de ça, la question que j'ai, mais comment concilie-t-on la bienveillance du Père et la souffrance du Fils? Ça paraît deux choses antagonistes. Un père qui aime son fils va faire en sorte qu'il ne souffre pas. Un fils qui souffre va se dire « Mais est-ce que le père m'aime pour que je souffre à ce point ?» Donc, cette espèce d'antagonisme entre la bienveillance du père, on parle de l'amour du père, la bienveillance du père, tu as prononcé le mot bienveillance, j'ai bien entendu, Corinne à ma droite. Et après, on voit la souffrance du fils, on voit un corps ensanglanté, mais comment le père peut-il être bienveillant à laisser son fils mourir de cette manière-là? Voilà. Donc, je reviendrai sur cette question à la fin. J'ai commencé par quelques témoignages dans la parole qui expriment cette relation d'amour entre le père et le fils. Le premier, on le trouve dans Matthieu 3, versets 16 et 17, c'est au sortir du baptême. Donc je vous lis le verset. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. » Et bien-aimé, donc « Habib », comme on trouve, je trouve l'équivalent en arabe, hein, oui. C'est vraiment l'amour fort, « Hab ».« Rav, un amour brûlant. Et donc, dès le début du ministère de Jésus, on a ce premier témoignage surnaturel de l'amour du Père, de l'affection du Père à l'égard de son Fils. Mais remarquons qu'aussitôt que Jésus reçoit ce témoignage, il est tenté par Satan. La tentation, l'épreuve, vient immédiatement après la démonstration d'affection. Et dans deux des trois tentations, Matthieu 4, verset 3 et verset 6, le serpent va dire à Jésus, « Mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, puisque Jésus avait faim. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, jette-toi du haut du temple, et Dieu enverra des anges pour que tes pieds ne heurtent point. » Non pas « Je doute que tu sois le Fils de Dieu. » Le serpent, Satan, ne doutait pas qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu. D'ailleurs, les démons dans la parole confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Le gadarénien en particulier, « Fils de Dieu, viens-tu nous tourmenter avant l'heure ?» Mais c'est plutôt beaucoup plus insidieux. « Puisque tu es le Fils de Dieu, fais ceci. » Transforme les pierres en pain. Jette-toi, sous-entendu. Agis de ta propre initiative. Tu es le Fils de Dieu. Tu as tous les droits. Tout est permis. Vas-y. C'est-à-dire, hors de la volonté du Père. Or, s'il y a une chose qui caractérise la relation entre Jésus et son Père, Jean 5, verset 18-19, je lis juste le verset critique. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Donc le serpent ne remettait pas en doute qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu, mais lui disait « Deviens autonome, émancipe-toi, agis en dehors de la volonté du Père. » Vous voyez la différence ? Et cette différence-là va être cruciale quand Jésus va se retrouver sur la croix. Et dans l'araméen, quand Jésus dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même », littéralement, il ne fait rien de sa propre âme. C'est le mot qui est employé. Il ne fait rien, littéralement, de la volition de sa propre âme. Il est question de l'âme. Et plusieurs fois, Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. » Jean 8, verset 28, « Je ne fais rien de moi-même. » Toujours la même expression. « Je ne fais rien de ma propre âme, de la volition de mon âme. Je n'entreprends rien de ma propre initiative. » Jean 8, 42, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jean 12, 49, « Je n'ai point parlé de moi-même. Ce n'est pas mon âme qui a initié quelque chose. » Et à chaque fois, c'est ce mot-là en araméen qui est employé. Autrement dit, le point sur lequel je veux mettre le doigt là, c'est la différence qu'il y a entre l'âme et l'esprit. L'âme qui agit de sa propre initiative est également positive. L'âme, c'est ce qui fait qu'Abdel n'est pas Jean-Marie, Jean-Marie n'est pas Abdel. C'est notre âme, nous avons une âme en propre, c'est notre personnalité, notre caractère. Mais la nature de péché, la coupure de la relation avec Dieu, fait que l'âme est devenue autonome et elle agit d'elle-même. On entreprend des tas de choses et évidemment on demande à Dieu de les bénir. Mais c'est notre âme qui agit. Au contraire de la marche par l'esprit qui relève de l'initiative de Dieu. Et notez bien les expressions comme dans Romains 8 par exemple, versets 13 à 16, mais je ne lis à nouveau qu'un extrait. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tiens, fils de Dieu. Donc Jésus, le fils de Dieu, faisait tout en étant conduit par l'esprit de Dieu. Il voit, il fait. Il entend, il dit. Et quel contraste évidemment avec le diable, et par conséquent également avec notre propre chair, puisque le diable, lorsqu'il profère le mensonge, le fait de son propre fond. Et là, il n'est pas dit, c'est intéressant, il le fait de lui-même, c'est-à-dire de sa propre âme. C'est une toute autre expression qui est employée. Il parle, en fait, il n'a pas d'âme. Il parle de lui-même, dans une position radicalement contre Dieu. Ça, c'est le diable. Il n'est pas, comme nous pouvons l'être parfois, ballotté dans notre âme, ou comme le dirait Jacques, hésitant, c'est-à-dire, dans le grec, dipsychique, comme si nous avions deux âmes. Le diable n'a pas d'âme et il n'a qu'un seul but, c'est la perte du Fils de Dieu. Donc le premier point que je veux soulever et qui va nous amener à la croix, c'est cette différence entre l'âme et l'esprit. Et Jésus, ayant une âme, puisqu'il a revêtu la chair et le sang, le corps et l'âme, il est devenu homme, ne marchait néanmoins pas selon son âme, mais se laissait conduire par l'Esprit de Dieu. C'est en jouant sur l'âme que le serpent a tenté Ève. T'as vu l'arbre là, comme il est propre à rendre intelligent. T'as vu comme il est beau. Il a poussé et incité Ève à prendre l'initiative. Ne pas rester dépendante de Dieu par l'esprit, mais de prendre l'initiative par son âme. Ah oui, l'arbre il est beau. Ah le fruit il a l'air bien. Ça doit être bon. C'est l'âme qui a parlé. Donc notre âme, elle marque notre individualité, mais notre esprit, c'est ce qui nous unit à Dieu. C'est ce qui nous rend dépendants de Dieu. Notre âme, chacun a une âme ici, mais si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes régénérés par l'esprit, il y a comme un filament d'esprit qui nous relie à Jésus. Vous voyez ? C'est de là que vient la dimension collective. Elle vient de l'esprit, elle ne vient pas de l'âme. Les âmes, nous sommes tous différents, nous avons des histoires différentes, des passés différents, des manières de penser différentes, parfois des cultures différentes. Donc l'âme, c'est ce qui nous distingue. L'esprit, c'est ce qui nous unit. Donc Jésus, dans ses derniers jours jusqu'à la croix, mais déjà pendant tout son ministère évidemment, a été tenté et éprouvé dans sa capacité à garder son âme, c'est-à-dire son humanité, soumise à l'esprit, son esprit divin, qui le reliait au Père. Et je pense que la suite du récit, donc dans les derniers jours de la croix, c'est là que va apparaître ce dilemme entre cette âme, cette chair, c'est-à-dire sa nature humaine, qui va à la mort dans l'angoisse, mais l'esprit qui va accompagner cela. Donc, je vais revenir en détail là-dessus. Avant cela, un deuxième témoignage, pour ne pas prendre trop de temps, qu'on trouve dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Donc, vous le connaissez évidemment quand Jésus dit « Mais que disent les hommes à mon sujet ?» Et là, Pierre va dire « Mais tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le Fils de Dieu vivant. Fils de Dieu. Et Jésus lui répond immédiatement « Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Donc indirectement, le Père a à nouveau attesté à Jésus qu'il était le Fils de Dieu, en utilisant cette fois l'apôtre Pierre. Mais immédiatement derrière, quand Jésus commence à annoncer qu'il allait devoir mourir à Jérusalem, voilà que Satan rapplique à nouveau et utilise la chair de Pierre. « Oh non, tu n'iras pas, qu'à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas !» Et Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan !» Révélation de l'amour du Père, le diable se pointe immédiatement. Ce n'est pas un schéma récurrent, ça, dans nos vies. Quand on expérimente une bénédiction de Dieu, on a un temps de prière particulièrement riche, et d'un seul coup, on se relève de sa prière, et il y a les pensées impures qui commencent à assaillir le cerveau. D'un seul coup, on a une pensée tordue par rapport à un tel ou un tel. Ça ne vous arrive pas, ça ? Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Tant de prières, on est béni, on est content. Et derrière, oh là 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 là, qu'est-ce qui me passe encore par la tête ? Vous voyez ? Il ne faut pas être étonné. C'est un schéma que l'on voit également dans la vie de Jésus. Et le dernier témoignage, avant d'en arriver au cœur de ce que je voulais dire, On le trouve cette fois dans Matthieu 17. C'est via, évidemment, l'épisode de la transfiguration qui vient juste derrière. Jésus va prendre à part Pierre, Jacques et Jean et il va être transfiguré devant eux. Et là, une voix va se faire entendre dans la nuée lumineuse. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, exactement comme au jour du baptême, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Mais dans la foulée, quelqu'un vient avec un enfant que les disciples n'ont pas pu guérir, et Jésus doit leur dire « Mais race incrédule et perverse. » Et là, on se dit « Mais attends, est-ce qu'il parle au père qui vient d'amener l'enfant ?» Juste après, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus aux disciples. Donc, c'est soit Satan qui vient l'attaquer après ce témoignage, c'est soit la chair de Pierre qui devient instrument pour le diable, c'est soit l'incrédulité des disciples. Il y a toujours une attaque qui vient à chaque fois que le Père rend témoignage au Fils. C'est frappant. Bien évidemment, il ne va pas en être autrement sur la croix. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant. D'abord, 5 jours avant la Pâque, dans Jean 12, alors c'est 20, c'est 23 à 33, et on trouve cette phrase, j'ai bien vérifié à nouveau dans l'araméen, « Maintenant, mon âme est troublée. » Jésus dit bien « mon âme », il ne dit pas « mon esprit ». Mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Et à nouveau, une voix se fait entendre du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore, en parlant du nom de Dieu. Donc, on voit que 5 jours avant la Pâque, une lutte s'engage en Jésus entre son âme et son esprit. L'âme va à la mort, là l'âme est troublée, mais la veille de la Pâque, dans le jardin de Gethsémané, la douleur de l'âme commence à aller encore plus loin. Car il est dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit aux disciples, mon âme, c'est à nouveau bien le mot âme, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, dans Gethsémané, son âme connaît l'angoisse. Ça, c'est un passage de Gethsémané qui m'a beaucoup aidé. Depuis 2 ans, on nous matraque à vouloir générer en nous la peur et l'angoisse. Et il a fallu que je confronte ma propre angoisse en pensant que, ah, mais Jésus aussi a connu l'angoisse. Il sait ce que c'est. Il peut compatir, donc, et je peux m'identifier à lui pour trouver la voie de sortie. Mais dans le jardin de Gethsémané, il dit « Mon Père ». La relation au Père est toujours là. L'âme est angoissée, mais la relation au Père est encore là. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et juste après, « Mon Père, une deuxième fois, s'il n'est pas possible que la coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Malgré le fait que l'âme, l'humanité de Jésus est angoissée, la relation au Père est toujours là. Il a encore cet accès libre au Père. Et dans le passage parallèle de Luc 22, versets 42 à 44, ça va même encore aller plus loin, parce que non seulement l'âme est angoissée, mais le corps se met à réagir, puisque dans l'agonie, il priait plus instamment et sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Donc là, c'est carrément tout le corps qui manifeste cette angoisse. Et on voit que l'accomplissement de la volonté de Dieu, et en tout cas à ce moment-là dans Gethsémané, l'acceptation de la volonté de Dieu impliquait pour Jésus la souffrance de son corps et de son âme, donc de son humanité. Jésus souffrait dans son humanité parce qu'il s'agissait de faire la volonté de Dieu, mais un Dieu et Père qui, même à Gethsémané, apparaît comme bienveillant et en qui le Fils se confie. Alors, est-ce que vraiment tout ce que faisait Jésus ne relevait que de la conduite de l'Esprit du Père? Eh bien, j'ai trouvé un passage où ce n'est pas le cas. Dans Jean 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et là, ce que l'on comprend, c'est que aller jusqu'à la croix, certes, serait conduit par l'Esprit de Dieu, mais non sans l'acceptation de la volonté du Fils. Le Fils pouvait dire oui, le Fils pouvait dire non. C'était toute cette lutte dans Gethsémané. Il a reçu l'ordre de pouvoir donner la vie et de pouvoir la reprendre. Là, le Fils avait le choix, et d'où la lutte à Gethsémané. On voit que ce n'était pas évident pour lui que d'accepter la volonté du Père, aller à la croix, pour que la volonté du Père devienne la sienne et qu'il la fasse de bon gré. Et c'est bien souvent un problème, ça, pour nous. Là, on dit faire la volonté de Dieu. Et puis, dès qu'on commence à penser à des choses que Dieu aimerait bien que nous fassions, il y a une résistance qui se met en place en nous et on trouve souvent des tas d'excuses. On résiste. Il y a une lutte dans la volonté. Notre âme ne veut pas céder face à l'Esprit. Donc là aussi, Jésus l'a remporté pour nous, si je puis dire. Il s'est identifié à nos angoisses et il plie sa volonté à la volonté du Père. Mais c'est encore le Père. Donc allons plus loin. Des fois, nous pouvons résister. Vous vous souvenez de ce passage dans Matthieu 21 28 à 31, un homme avait deux fils. Et le père dit au premier, « Va dans mon champ. » « Non !» Et puis il se repent et il y va. Et il dit au deuxième, « Va dans mon champ. »« Oh oui, père, bien sûr !» Et il n'y alla pas. Et Jésus demande, « Mais qui a fait la volonté du père ? Le premier ou le deuxième ?»
Le premier.
Le premier. Donc des fois, nous résistons. Hein. C'est normal qu'il y ait cette résistance. C'est notre chair, notre âme. Alors, notre âme déjà, et en plus notre nature de péché que Jésus n'avait pas. Mais notre âme, et encore plus notre nature de péché, elle rechigne à faire la volonté de Dieu. Elle résiste. Et enfin, pour ne pas faire trop long, on entre dans la phase finale. Et là, il y a une chose qui m'a frappé. Souvent, quand on entend un message sur la croix, on va parler du fameux « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on se dit « oh là là, le Père a abandonné le Fils, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'aimerais vous proposer une autre lecture de ça. D'abord, Marc 15, verset 25, nous dit que c'était la troisième heure que Jésus fut crucifié. Alors, quand on lit dans la Bible « troisième heure », savez-vous à quelle heure ça correspond ?
9 heures
du matin. Hein, le jour commence à 6 heures du matin. Donc, la troisième heure, 9 heures, la sixième heure, midi, la neuvième heure, 15 heures. D'accord ? Donc, il est crucifié à 9 heures du matin. Et la première chose qui se passe, c'est que les soldats se partagent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et moi, je me suis dit, quand j'ai lu ça, Jésus voit les soldats tirer au sort sa tunique, psaume 22. Psaume 22. Qui est le psaume, qui est aussi frappant, j'allais dire, qu'Ésaïe 53, que tu as lu tout à l'heure, qui décrit la crucifixion. Mais je l'ai vu pas simplement comme une prophétie annonçant que ces choses devaient arriver, mais comme Jésus s'emparant du psaume 22 pour aller jusqu'à la fin du psaume 22 que l'on va lire juste après. Et je me suis dit, mais est-ce qu'au contraire, en voyant ça, il n'a pas puisé sa force en disant, ça y est, je vais maintenant accomplir, je vais vivre le psaume 22, mais je vois comment il termine. Et donc à nouveau, je vais lire la fin du psaume 22 tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'ai lu ça. Parce qu'il va y avoir trois citations du psaume 22 en quelques versets. Jésus voit les vêtements tirés au sort, psaume 22. Voilà. Voilà, maintenant, je sais ce que je vais vivre. Mais là, le passage parallèle dans Luc, Luc 23, verset 34, au même moment où la tunique est tirée au sort, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La relation au Père, alors qu'il est déjà sur la croix, est encore pleinement là. Il dit, « Père. » Mais le diable rôde. Il dit, « Père. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà que le diable se manifeste immédiatement. Très étonnant, Matthieu 27, versets 39 à 40. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Quand c'est qu'on avait entendu ça, « Si tu es le Fils de Dieu ?» Juste après le baptême. Donc, quelle est la voix qui est en train de parler au travers des passants qui injurient Jésus ?« Si tu es le Fils de Dieu. » C'est à nouveau le serpent qui vient. « Tu souffres. Sauve-toi. Tu es le Fils de Dieu. Tu as tout pouvoir. Tu peux descendre. » Certains vont même dire qu'il descend de la croix et on croira en lui. Et Jésus est en train de souffrir dans son corps et dans son âme, mais il a encore la perception du Père. Pardonne-leur ce qu'ils font. Deuxième citation du psaume 22, c'est cette fois le verset 9 du psaume 22. Cette fois, ce n'est pas la foule et les passants, ce sont les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens qui se moquaient. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, nous croirons en lui. Et là, ils se mettent à citer, sans même s'en rendre compte, le psaume 22. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, puisqu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Encore l'expression « Fils de Dieu ». Il a dit qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu le délivre. C'est exactement ce qui est écrit dans le psaume 22, verset 9. Il s'en remet à l'Éternel. Qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il met son plaisir en lui. Et donc, pour la deuxième fois, Jésus entend les paroles du psaume. Je suis encore dans ce psaume. Et enfin, une troisième fois, cette fois c'est la sixième heure, de la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et à la neuvième heure, 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria... 15e. Moi, j'ai la neuvième heure. Donc, 15e heure, ça veut dire 3 heures de l'après-midi. 15 heures de l'après-midi. Oui. Voilà.
Tu dis la neuvième heure.
Oui, la neuvième heure dans leur compte, qui représente 15 heures dans notre compte. Voilà. Et là, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Eli, Eli, lama shabachthani. » Bon, je vous le lis en araméen. Eli, Eli, lama shabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, souvent, les commentateurs ou les prédicateurs disent, ah ben voilà, là, Dieu a abandonné le Père. Et moi, je me suis dit, mais non.
Fils.
Comment?
Abandonner le Fils.
Le Fils, pardon. Le Père a abandonné le Fils. Mais la manière dont je lis ça, je le lis complètement autrement. Le Fils, dans son âme, a perdu la perception du Père. Le Père est toujours là, mais le Fils ne le perçoit plus. Il est envahi par son âme souffrante. Pour un temps, il y a une éclipse, il ne voit plus son Père. Il ne perçoit plus son Père. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la neuvième heure. Jésus est sur le point de mourir, Il vient de passer 6 heures sur la croix. Et ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est juste avant de mourir. Ça n'a pas duré des heures. Souvent, on a l'impression que Dieu a abandonné Jésus sur la croix. On se dit, mais ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, ça a duré un instant. C'est juste avant de mourir, à 15 heures, qu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et que je m'en prends comme « je ne te vois plus, je ne t'entends plus, où es-tu ? Je ne te vois plus, je ne te perçois plus. » Et ce passage de Matthieu 27, versets 45 à 50, se conclut avec « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Si je lis ça, je me dis, mais Jésus est mort dans l'absence de perception du Père ? Il est mort sans plus voir le Père ? Et évidemment, le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» psaume 22, verset 2. Mais dans le passage parallèle dans Luc 23, versets 45 et 46, là où Matthieu avait dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit », Luc va dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. La perception du Père est revenue juste avant de mourir. Autrement dit, l'esprit a repris l'ascendant sur son âme souffrante. La relation consciente avec le Père est revenue dans la perception. Hein. Elle est revenue dans sa conscience, elle est revenue dans sa perception juste avant de mourir. Donc, la perception de l'abandon de la part du Père n'a duré que très peu de temps. Juste avant de mourir, au moment d'expirer, « mon Dieu !» le psaume 22. Mais juste avant d'expirer, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il y a une éclipse dans sa perception du Père. Et pour moi, c'est très parlant à nouveau de ce dialogue qui peut parfois être une bataille entre notre âme et notre esprit. Par notre esprit, nous sommes appelés à communier avec le Fils et avec le Père, à lui faire confiance, à nous abandonner à lui, à sa providence, à sa bienveillance. Mais notre âme, à cause par exemple des circonstances, éprouve de l'angoisse. Notre âme pose des questions. L'esprit est reposé, l'âme est troublée. L'esprit est silencieux dans l'abandon et la confiance. L'âme est interrogative, elle se pose des questions. Et la question est de savoir, mais qui va l'emporter ? L'âme ou l'esprit ? La confiance en Dieu ou le doute, l'incrédulité, puisque notre âme, déchue que nous sommes, ouvre vite la voie à la chair qui est rebelle à Dieu. Donc, ce qui peut commencer par une interrogation au niveau de l'âme peut vite se terminer par de la rébellion au niveau de la chair. On voit par là deux choses. Premièrement, j'allais dire, là, excusez-moi, une minute de théologie. Évidemment que le Père et le Fils étant unis par l'Esprit de Dieu, il n'était pas possible que ce lien soit coupé. Dieu est Dieu. Il n'était pas possible que le lien entre le Père et le Fils par l'Esprit de Dieu soit coupé. Et souvent dans mes messages, souvenez-vous, je vous parle souvent de celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Il y a un lien d'esprit qui ne peut pas être défait. Mais dans son âme à un moment donné, dans la souffrance, a voilé la vision spirituelle du Fils. Et ça peut être le cas pour nous aussi. Nous avons des moments où nous avons conscience d'être dans la présence de Dieu, souvent dans la prière, on a réalisé quelque chose en lisant la Bible, ça nous a frappé, waouh ! On ressent cette joie devant le Seigneur. Et il y a d'autres moments où on se laisse happer par les soucis du monde et notre âme prend le dessus les raisonnements, les questions, les préoccupations, tout ce qui étouffe la vie de foi. Voyez ? Et donc là, on voit pleinement dans ce dilemme entre l'âme et l'esprit, à la fois la pleine divinité du Fils par son esprit et la pleine humanité du Fils par la lutte dans son âme, lutte qui ne lui ont pas été épargnée. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et quand j'ai préparé ce message, vraiment, je me suis dit, Jésus a puisé ses forces. La raison pour laquelle il est ressorti de cette souffrance de l'âme pour que l'esprit prenne le dessus, c'est parce qu'il était nourri à ce moment-là par ce psaume 22. Et quand on voit la conclusion du psaume 22, que je vais vous lire, elle se termine dans la proclamation et l'allégresse, à partir du verset 23. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Vous toutes, la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, vous toutes, la race d'Israël, car il n'a pas méprisé. Il n'a pas dédaigné l'affliction de l'affligé. » Et là, Jésus est en train de parler de lui. « Il ne lui a point caché sa face. » Ce n'est pas le Père qui avait caché sa face au Fils. C'est le Fils dans sa souffrance qui, pendant un instant, n'a plus vu la face du Père. Mais il l'a exaucé quand il criait à lui. Tu seras le sujet de ma louange dans une grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront à l'Éternel. Toutes les familles des nations se prosterneront en ta présence. Il est déjà en train de prophétiser sur ce qui se passerait après la Pentecôte. Car le règne appartient à l'Éternel, il domine sur les nations, etc., etc. La fin du psaume a permis à Jésus de relever, si je puis dire, la tête, en tout cas de... Voilà, que la promesse donnée par le psaume 22 lui permette à son esprit de reprendre le dessus sur l'âme souffrante. Et là, il peut s'abandonner au Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est terminé. Et donc, pour revenir à la question initiale, j'arrêterai avec ça. Comme ça, on laisse un petit peu de temps aussi pour le partage. Je reviens à ma question initiale, celle que j'ai posée au départ. Et c'est vraiment quelque chose qui m'occupe depuis quelque temps. Je crois vraiment, alors je ne sais pas jusqu'où nous pourrons avancer dans l'étude de l'Apocalypse, mais je crois vraiment que nous entrons et nous allons entrer rapidement dans des temps très difficiles. Et vraiment la question qui m'agite depuis 2 ans, c'est vraiment mais comment concilier d'un côté la bienveillance de notre Père Céleste, qui quand on lui demande un poisson, ne nous donne pas un serpent. Quand on lui demande un œuf, il ne nous donne pas de caillou. Comment concilier cette bienveillance du Père, ne pas douter de la bienveillance du Père, et se dire, mince, je vais souffrir, ça va être difficile. Comment fait-on pour concilier ? À nouveau, je repose les questions du départ. Mais si Dieu m'aime, si Dieu est bienveillant, il va m'épargner ces choses-là. La tribulation, la persécution, la souffrance, le manque, la trahison. Et inversement, si je me retrouve dans une situation pareille, je vais dire, mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il n'est pas en train de me livrer à mon péché? Est-ce que ça ne serait pas un jugement de Dieu qui s'abat sur moi? Les questions que Jésus s'est posées à un instant à la croix. Mon Dieu, m'aurais-tu abandonné? Je ne t'aperçois plus, je ne vois que des problèmes. Et la réponse que j'ai trouvée pour ma part, pour la conciliation entre la bienveillance du Père et notre souffrance, c'est bien évidemment de considérer la bienveillance du Père et sa souffrance, la souffrance du Fils. La volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu, veut dire que quelque chose en nous souffre. Et à combien plus forte raison si c'était déjà le cas pour le Fils de Dieu sans péché, à combien plus forte raison nous pécheurs ? Donc, en fait, la souffrance est inévitable. Donc, il nous faut l'acter. Nous entrons dans des temps difficiles, mais peut-être avons-nous connu déjà des moments difficiles, une maladie, un deuil, une perte, quelque domaine que ce soit. Quelque part, il nous faut acter que la souffrance fait partie du lot de la vie chrétienne, en tout cas sur cette terre, et que plutôt que d'essayer de la fuir et de mal l'interpréter en disant « du coup, c'est Dieu qui ne m'aime pas », peut-être il faut se dire au contraire que c'est l'opportunité que Dieu nous donne pour d'autant plus renoncer à notre autonomie et vraiment nous mettre à marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est lâcher le contrôle de notre vie. Tant que nous en sommes à contrôler notre vie, ou pour réemployer le vocable de Jésus, celui qui voudra sauver sa vie, son âme, la perdra. Et donc, pour ma part, c'est la méditation de ces derniers jours avant la croix où je me dis, non, non, le Père bienveillant a toujours été là. Jésus n'en a jamais douté. Juste un instant, il ne l'a plus vu, mais l'Esprit a repris le dessus et c'est ce qui lui a permis de passer au travers de la mort. Mais ça, ça a une grande importance pour nous aussi. Alors là, je ne vais pas redérouler par manque de temps, et de toute façon, ce n'est pas la pensée pour ce soir, mais Romains 6, l'union en Jésus en sa mort et l'union en Jésus en sa vie. Je pense avoir déjà, de par le passé, parlé de ça. Nous voulons tous être unis avec Jésus en sa vie. Mais combien il est dur d'être unis avec Jésus en sa mort, en la repentance, l'acceptation de ce qui est notre chair. Donc voilà, la conciliation entre la bienveillance du Père et la souffrance, je pense qu'on la trouve en méditant ces derniers jours de Jésus, le menant à la croix. Et Jésus, donc, à part ce dernier instant avant la mort, a toujours gardé ce regard sur le Père, a confessé le Père, y compris sur la croix et dans son dernier souffle. Donc il n'a jamais, sauf à un instant, il n'a pas douté de la bienveillance du Père. À un moment, il n'a pas perçu la bienveillance du Père, mais la bienveillance du Père a toujours été là, et pourtant Jésus est mort. Ah, s'il y avait un Dieu, pourquoi les guerres ? Pourquoi les souffrances ? Est-ce qu'on n'a pas souvent entendu ça ? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Le monde, si on n'a pas une vision spirituelle, le monde ne peut pas concilier la notion d'un Dieu bienveillant et la souffrance dans le monde. Voilà, donc puisse le partage de ce soir, voilà, nous aider peut-être à méditer justement sur ces deux choses qui nous semblent difficiles à concilier, la bienveillance de Dieu, notre souffrance, comme ce fut le cas pour Jésus, sa souffrance. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir des pensées, des partages.